après la décision de Donald Trump dimanche de retirer ses troupes de Syrie, mercredi dans la nuit, l'armée turque a pénétré dans le nord-est de la Syrie, région contrôlée par la coalition kurdo-arabe alliée des Occidentaux. Cette intervention a provoqué en quelques heures la mort de 56 personnes et quelques 100 000 déplacés. Hamid Bouzarslan, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans ces matins du samedi. Vous êtes historien et politiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient et l'auteur de nombreux ouvrages, dont on peut citer deux livres de vous, Les Kurdes, puissance montante au Moyen-Orient, c'était aux éditions du CNRS en 2017, et aux mêmes éditions cette année, apparu Crise, violence et décivilisation, dont on dira un mot tout à l'heure après 8h30. Parmi les nombreuses réactions, on peut citer celle de l'écrivain Patrice Franceschi, qu'on a vu beaucoup sur les plateaux télévision cette semaine. Il a combattu auprès des Kurdes et il a dit à propos de la décision américaine qu'il s'agissait là à la fois d'une tragédie humaine, d'une lâcheté morale, de la honte de l'Occident et d'une faute politique très grave. Et dans une tribune que vous avez écrite pour le journal Le Monde paru hier, le Monde daté d'aujourd'hui, Hamid Bouzarslan, vous allez encore plus loin, me semble-t-il. Vous écrivez, vous parlez de la capitulation des États-Unis et d'un Munich des temps modernes.
Oui, un Munich des temps modernes, parce que les États-Unis, effectivement, se sont appuyés sur les forces kurdes pour pouvoir combattre l'État islamique. La Turquie n'a jamais caché sa complicité avec l'État islamique, en tout cas de 2014 à 2016. On sait aussi que la Turquie s'est très clairement positionnée contre les États-Unis, mais d'une manière générale contre l'Occident. Le président Erdogan considère que l'Occident constitue son ennemi ontologique. Donc, au-delà de ses actes, c'est son être même qui constitue une source de d'inimitié. Et donc, on connaît l'homme, on connaît son idéologie, on sait qu'il est très proche des djihadistes syriens. Et malgré tout ceci, effectivement, le président Trump a décidé, non pas de retirer la totalité de ses forces, mais en tout cas de lui donner le feu vert pour intervenir dans une partie du Kurdistan syrien.
Parce que quand même, Donald Trump a officiellement condamné finalement cette intervention en disant que c'était pas une bonne idée. Enfin, c'était une mauvaise idée.
Il faudrait aussi savoir que je crois que là aussi on peut parler de Munich et de la crise des démocraties dans les années 1930 en Europe, qui se sont trouvés totalement désarmés par rapport à la montée du totalitarisme, mais parce qu'il y avait la lâcheté, mais parce qu'il y a aussi, il y avait aussi effectivement un dysfonctionnement des institutions dans les années 1930. Aujourd'hui, on se trouve un peu dans la même situation.
Je vais faire un raccourci sûrement de votre pensée, Hamid Bouzarslan, mais ça veut dire que vous faites un rapprochement entre Erdogan et Hitler ?
Disons que le contexte est malgré tout différent. Mais on a quand même de nouvelles formes d'antidémocratie au XXIe siècle. Le régime d'Erdogan, le régime de Poutine représentent très clairement des antidémocraties de notre temps. Bien entendu, on n'est plus du tout dans les années 1920, dans les années 1930. On n'a pas un phénomène comme la montée du nazisme. Il n'en reste pas moins que ces deux hommes considèrent que l'Occident est leur ennemi. Ils se pensent comme des alternatives radicales et viriles contre les démocraties libérales. Ils estiment que leur nation a une mission historique. Dominer le monde consiste effectivement pour eux, la mission qu'ils ont reçue de l'histoire à l'aube des temps. Et les deux ont une interprétation très très religieuse du monde. Poutine considère effectivement que la Russie constitue le bras armé de l'orthodoxie. Et Erdogan ne cache absolument pas que la nation turque a pour mission de défendre l'islam, de devenir son bras armé. Donc de ce point de vue-là, on a l'impression qu'effectivement les nouvelles entités démocraties sont certes différentes de celles des années 1920 et 30. Il n'en reste pas moins qu'elles s'affirment comme des réponses alternatives, nationales, radicales, parfois religieuses, contre la démocratie libérale.
Hamid Bouzarslan, vous disiez, on connaît l'homme Erdogan, on connaît ses motivations, on connaît son idéologie. Par rapport à cette région du Rojava, le nord-est en l'occurrence de la Syrie, et ce territoire des Kurdes, qui est une forme de vaste triangle entre le fleuve Euphrate, la Turquie et l'Irak. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'en prend à cette région ? Quel est son objectif ? Quelles sont ses motivations ?
Je crois que pour comprendre son objectif, il faudrait d'abord penser, avoir à l'esprit que pour lui, la turcité doit dominer, pas la nation turque, pas nécessairement la Turquie en tant que telle, mais la turcité doit dominer cette région. Il ne faut pas non plus oublier que Erdogan a noué une alliance avec le parti de l'extrême droite, le parti d'action nationaliste. Il a noué une alliance avec les disciples d'Alexandre Douguine, qui est l'un des théoriciens de Kremlin, l'ex-fondateur du Parti national bolchevique. Donc je crois qu'effectivement il faut avoir à l'esprit les alliances qu'Erdogan a nouées graduellement depuis 2015. Et dans la logique d'Erdogan, effectivement, la kurdicité doit être effacée de l'est de l'Euphrate, car l'est de l'Euphrate, pour lui, constitue une sorte de Macédoine, les Balkans ottomans. L'Empire ottoman a perdu les Balkans, et donc pour lui, la deuxième étape du projet de la destruction de la Turquie, c'est d'arracher à la Turquie l'est de l'Euphrate.
Ce que vous appelez la décurdification. Voilà. Vous avez donc en tête un génocide qui ne dit pas son nom. Épuration ethnique.
Voilà, une épuration ethnique, sans doute pas un génocide. On n'est pas dans un contexte génocidaire comme en 1915. Hein. Cela avait été le cas avec les Arméniennes. Il n'en reste pas moins que c'est sur le même territoire que ce jeu se joue de nouveau. Pour Erdogan, il est très très clair. Hein. Il faudrait installer les quelques 3 millions de réfugiés syriens qui sont aujourd'hui en Turquie dans cette zone. Autrement dit, chasser les Kurdes, ou en tout cas les réduire en une situation absolument minoritaire. Et cela s'est fait d'ailleurs dans la ville d'Afrin, qui a été prise par Erdogan en Syrie à la fin de 2017. Quelques 200 000 Kurdes ont quitté la ville et ses environs. La ville est devenue une sorte de djihadistan, investie par les groupes djihadistes qui se sont battus pour le butin que présentait cette ville. Donc pour Erdogan, les choses sont extrêmement claires. Cette zone doit être arabisée, voilà, effectivement, avec l'installation de ces millions de réfugiés syriens qui sont en Turquie.
Il y a des raisons nationalistes. Il y a aussi, vous le diriez, des raisons de politique intérieure. Si je vous pose cette question, c'est que dans la même page du Monde où vous avez, vous, signé votre tribune, Armit Bozarslan, on peut lire le point de vue d'Ahmet İnsel, qui est un politiste également. Et il dit pour lui que Erdogan poursuit surtout des buts de politique intérieure. Il veut créer ce fameux élan nationaliste alors que s'érode son soutien électoral. Et c'est ce que vous disiez dans le journal de Thomas Larabi tout à l'heure. Il perd son soutien populaire. Mais Ahmet İnsel ajoute, il pourrait, en parlant d'Erdogan, avoir fait le pas de trop et accélérer la fin de son règne autocratique. Là, il me semble que vous divergez de point de vue.
Sans doute, on ne diverge pas beaucoup malgré tout. Là, c'est vraiment l'avenir qui nous le dira. Sans doute, le président Trump qui est devenu un bateau ivre, et je crois que les États-Unis n'ont jamais connu de président aussi égocrate et en même temps sans direction depuis Andrew Jackson. C'était les années 1830. Donc aujourd'hui, effectivement, la Maison Blanche de Donald Trump est un bateau ivre. Mais Donald Trump n'a pas pu prévoir la réaction que son feu vert allait susciter au sein des républicains. Et aujourd'hui, à la tête de la révolte qui s'est créée ou s'est déclenchée au Sénat, figure un sénateur, Graham, qui est très proche de Trump et qui exige des sanctions extrêmement sévères par rapport à la Turquie. Pour les républicains, qui avaient négocié malgré tout un accord avec Ankara pour créer, voilà, effectivement, une sorte de contrôle conjointe de la frontière entre Ankara et Washington, pour les républicains, Erdogan a trahi sa promesse. Et donc, du coup, aujourd'hui, Donald Trump se trouve reculé à prendre des décisions extrêmement, des sanctions sans doute extrêmement sévères. Et si cette politique de sanctions se mettait en place, effectivement, je crois que le coût économique et politique pour Erdogan pourrait être extrêmement élevé.
Vous pensez qu'un revirement, carrément, américain est possible?
Cela est possible, sans doute pas sur toute la ligne. Car je crois qu'effectivement, l'armée turque pour le moment n'avance pas beaucoup. Selon le Pentagone, l'armée turque n'a occupé que deux petits villages. Et la guerre des villes n'a pas encore commencé. Et on sait qu'effectivement, les Kurdes savent mener la guerre de ville. Ils l'ont montré à Kobané en 2014 contre l'État islamique. Donc sans doute l'opération Tortue va durer encore 10 jours ou 15 jours. Mais cela peut signifier aussi que l'opinion publique en Amérique est surtout... la révolte républicaine au Sénat et au Congrès peut prendre de l'ampleur et cela signifie aussi qu'effectivement Trump peut être obligé d'imposer des sanctions économiques extrêmement sévères.
Ami Bozarslan, quelles peuvent être les conséquences cette fois pour les Européens? Évidemment, on pense à la question cruciale des djihadistes prisonniers gardés par les Kurdes. On entendait hier soir que 5 prisonniers se seraient déjà évadés sur les quelques 12 000 qui sont retenus et qui étaient gardés par les Kurdes. Est-ce qu'on peut craindre une recrudescence de l'État islamique, une nouvelle crise migratoire, des nouveaux attentats sur le sol français, comme on l'entend depuis quelques jours déjà.
N'oublions pas qu'il y a deux jours, Erdogan a menacé l'Europe d'ouvrir les portes et envoyer
aux quelques 3 millions voilà, et demi de réfugiés.
Voilà. Déjà en 2015, cela avait été très très clairement la stratégie d'Erdogan. N'oublions pas le contexte de 2015, qui était un contexte extrêmement tendu avec la crise entre l'Allemagne et la Turquie notamment. Donc je pense que là, la politique de chantage continue. Et en deuxième lieu, le Pentagone le rappelle, mais depuis maintenant extrêmement longtemps, que l'État islamique n'est pas fini. L'État islamique n'a pas été écrasé. La question n'est pas uniquement la question de ces prisonniers qui sont dans les camps, mais on estime effectivement à quelques 10 000 militants de l'État islamique disparus dans la nature. Ces gens-là attendent leur moment. Quand vous lisez les textes de l'État islamique, ils disent très clairement qu'ils sont entrés dans la phase de la patience. La patience, ça veut dire la revanche viendra. Cette revanche est promise par Dieu, comme le prophète de l'islam a pu être militairement vaincu avant de prendre sa revanche. Et je crois que sans une présence militaire syriens, kurdes et arabes, sans doute la résurgence de l'État islamique est inéluctable.
Est-ce qu'à ce titre-là, vous diriez, comme ce collectif emmené par Bernard-Henri Lévy qui a signé une tribune, c'est le troisième article de la page du Monde, que c'est tout l'acquis de la guerre anti-Daesh, ce sont tous les fruits de cette longue lutte qu'Américains, Européens, Kurdes de Syrie et d'Irak ont mené et gagné ensemble coude à coude, qui vole aujourd'hui en éclats, Amit Gozarsan?
Le risque est là. Le risque est là, d'autant plus que, on a la mémoire très courte. En 2007, l'État islamique avait été vaincu en Irak. 2014, c'était le retour de l'État islamique dans des proportions absolument inimaginables. Et aujourd'hui, quand vous voyez, mais vraiment au jour le jour, la liste des attentats en Irak et en Syrie, vous voyez très clairement que l'État islamique n'a pas disparu. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement l'opinion publique européenne est très très préoccupée par ces prisonniers. Ces prisonniers, certes, sont très aguerris, mais il ne s'agit pas que de ces prisonniers. Potentiellement, vous avez plusieurs dizaines de milliers de combattants qui sont toujours sur le terrain, aussi bien en Irak et en Syrie. Et effectivement, si on détruit la force kurde, qui est la principale dynamique de la résistance anti-État islamique, cela ne peut déboucher que sur la résurgence de cette militance.
Que peut la France faire pression sur la Turquie?
Je pense que les pressions françaises seules ne suffiraient pas, d'autant plus que Erdogan ne porte pas Macron dans son cœur. Je pense que là, il faut agir à l'échelle européenne. Seule une décision européenne en termes de sanctions, en termes aussi de pression, d'embargo militaire, peut porter ses fruits. Et aujourd'hui, on voit qu'à part la Hongrie, aucun pays de l'Union européenne ne soutient la Turquie. L'image de la Turquie est quand même assez détestable. L'image d'Erdogan est assez détestable. Je crois que l'Europe peut faire énormément de choses, mais les États individuels de l'Union européenne, individuellement, seront trop faibles.
Pour l'instant, la France s'est plutôt tournée vers le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni jeudi en urgence et qui est plutôt divisé. Donc les 5 membres permanents ont simplement invité la Turquie à arrêter, je les cite, son action militaire unilatérale, mais sans condamner les frappes. Quelle efficacité cela peut-il avoir ?
Pour le moment, aucun. Pour le moment, aucune efficacité. Une fois de plus, je pense que l'efficacité viendrait si les Américains décidaient de ne pas abandonner leur position à Kobané et à Kamışlı et dans le reste de Rojava, parce que le territoire qu'aujourd'hui la Turquie veut conquérir, c'est sur une longueur de 120 km² et une profondeur de 30 km², sur une totalité de 900 km². Donc le premier test sera, est-ce que les Américains vont résister? Pour le moment, c'est que le Pentagone dit sur leur position dans les autres enclaves de Rojava. Et en deuxième lieu, s'ils vont vraiment franchir le pas tel que Trump semblait le promettre hier soir en imposant des sanctions.
Hamit Bozarslan, historien et politiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, est notre invité ce matin. Restez bien sûr avec nous. Il est 8h30 sur France Culture. Hamit Bozarslan, le courage des Syriens, leur force de résistance, pensez que ça peut être un espoir pour tout le monde ?
C'est un espoir pour tout le monde. N'oublions pas que la société syrienne a été détruite par les bombes, notamment de Bachar al-Assad et de Vladimir Poutine. Sur 22 millions de personnes aujourd'hui, il y a 500 000 morts au moins, 11 ou 12 millions de déplacés, de réfugiés. Et en même temps, quand on voit la création artistique syrienne, que ce soit en termes de cinéma, de dessin, de caricature, de la peinture, on est absolument impressionné. Et je le vois aussi à travers mes étudiants syriens qui ont connu des expériences absolument atroces, et on parle seulement de l'exil, on ne parle pas du tout de meurtre fratricide, de divorce au sein des familles, mais on voit comment en même temps ils se reconstituent. Ils se reconstituent par la résistance, par la culture, par le cinéma, par la recherche aussi, par les études. Investir dans les études pour une jeune Syrienne qui a connu tant d'expériences, c'est une forme de résistance incroyable, mais aussi c'est une source d'espoir.
Il y a la société civile et puis il y a les combattants, et toujours avec en ligne de fond la résistance. C'est aussi dans un tout autre genre, puisqu'en plus il s'agit d'une fiction réalisée par une Française. Le film qui vient de sortir cette semaine, Sœurs d'armes, de Caroline Fourest, qui raconte le parcours de ces femmes engagées au sein des rangs kurdes en Syrie, parce que les femmes sont extrêmement nombreuses. Il y a beaucoup de combattantes parmi les combattants, Hamid Bozarslan.
Oui, énormément de combattantes, pour des raisons multiples. Effectivement, la présence féminine a toujours été très très importante dans le mouvement kurde depuis 30 ou 40 ans. Et je crois qu'effectivement, c'était l'un des points qui avait troublé énormément les djihadistes de l'État islamique. C'est d'ailleurs aussi l'un des points qui trouble énormément Erdogan, qui voit dans cela une sorte de perversion, une sorte de contournement total, de transgression totale des normes religieuses, alors que pour ces femmes-là, y compris la participation à la violence, ça veut dire à la défense armée de leur territoire et la lutte contre le djihadisme, c'est une façon aussi de devenir sujet, autrement dit devenir citoyenne, de s'assumer en tant que femme, en tant que kurde, en tant que combattante, mais aussi en tant que constructrice d'un monde nouveau.
Oui, et c'est peut-être aussi en ce sens-là que vous parlez d'une défaite de la démocratie dans votre tribune, Hamid Bozarslan, parce que déjà les Kurdes ont largement contribué à enrayer et à contenir l'avancée de l'État islamique, mais en plus les Kurdes du Rojava ont instauré une sorte de société modèle en quête de liberté, où les femmes occupent une place importante à égalité avec les hommes, où l'écologie compte énormément, une société laïque, une société pleinement démocratique.
Voilà, peut-être pleinement démocratique, pas encore, parce que je pense qu'effectivement pour devenir pleinement démocratique, cette société doit s'ancrer dans la durée. N'oublions pas que les Kurdes syriens sont en état de survie depuis maintenant 2012.
Ils n'ont pas d'État.
Voilà, ils n'ont pas d'État et ils n'ont pas les conditions de survie non plus. On voit dans quelle précarité ils vivent. Mais en même temps, quand on voit leurs sources d'inspiration, effectivement, on voit que ces sources d'inspiration sont très très différentes de ceux que prônent l'Iran des Mollahs, la Turquie d'Erdogan ou les djihadistes. Lisez les discours d'Erdogan sur la question féminine. Pour lui, il est très clair, une femme qui refuse d'avoir trois enfants n'est pas une femme, n'est pas un être humain. Elle a trahi en quelque sorte la mission que Dieu lui a accordée. Alors que dans le discours kurde, vous n'avez absolument pas de telle perspective. J'ai parlé d'Erdogan, mais pour Vladimir Poutine aussi, le rôle de la femme, c'est essentiellement de devenir mère.
C'est Hamid Bozarslan, une question que je voulais vous poser, le fait que les Kurdes, qui donc sont répartis, je crois, sur quatre pays, n'ont pas d'État. C'est le plus grand peuple de la planète à ne pas avoir d'État. Comment l'explique-t-on ?
On l'explique
sans se relancer dans une histoire longue, je pense.
Bien sûr, mais il faut se relancer quand même malgré tout aussi un peu dans une histoire longue. Voilà, le Kurdistan a été une zone interimpériale entre la Perse et l'Empire ottoman d'abord, entre la Perse, l'Empire ottoman et la Russie au 19e siècle. Donc effectivement, cette position interimpériale sans doute a empêché la construction d'un État kurde. Par la suite, dans les années 1920, lorsque la France, voilà, après la dissolution de l'Empire ottoman, la France et l'Angleterre, qui au début voulaient constituer, en tout cas autoriser la création d'un État kurde, ont finalement décidé d'attacher les territoires kurdes de ces pays-là à la Syrie et à l'Irak. Et donc du coup, je crois qu'il y a aussi une responsabilité historique des pays européens. En 1915, on avait dit que la Turquie s'est rappelée à cause du génocide des Arméniens. La Turquie a été pleinement réhabilitée et en même temps, les Kurdes ont été plus punis. Et donc, du coup, on a autorisé leur division et leur partage entre de nouveaux États qui ont été créés.
Le parti politique kurde, le PKK, est quand même l'ennemi juré d'Ankara, de Erdogan, mais il est aussi sur la liste noire des Européens. Il est jugé parmi les terroristes, le PKK, notamment parce qu'il mène une lutte sanglante contre Ankara depuis 1984. Là aussi, on ne va pas refaire l'histoire. C'est juste pour vous poser une question sur la double vision, qui est forcément dans la réalité beaucoup plus complexe, comme toujours, entre une vision assez romantique des Kurdes qu'on a ici en France et qu'on véhicule assez souvent en France, et une vision plutôt diabolique vue de Turquie. Elle est où la vérité,
La vérité est que depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, le PKK ne se déclare plus du tout l'ennemi mortel d'Ankara. Au contraire, il y a eu des tentatives de négociation. Le PKK souhaite négocier. Le PKK a adopté une doctrine qu'on peut appeler comme l'anarcho-marxisme et qui du coup refuse la création des États, qui insiste beaucoup plus sur la représentation directe des populations, ce qui explique qu'aujourd'hui le PKK ne veut pas la création d'un État kurde, ni d'ailleurs le changement des frontières. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il faut un peu nuancer l'image qu'on avait du PKK d'il y a 20 ou 30 ans. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que de 2013 à 2015, il y a eu des négociations entre Erdogan et le PKK. Ces négociations ont été quasi directes et quasi officielles. On a des actes, etc. Il y a eu des rencontres qui ont été filmées. Donc je crois qu'effectivement, l'objectif du PKK, ni d'ailleurs du pays des Grecs en Syrie, n'est pas du tout la création d'un État kurde, mais au contraire de la représentation kurde dans le cadre des États qui existent.
Est-ce qu'il représente la population kurde dans son entièreté, aux Arslan, ou seulement une petite partie de la population?
Disons que le PKK est un parti politique militaire. Ça veut dire qu'effectivement, par définition élitiste, alors que quand vous prenez le HDP en Turquie, le Parti démocratique des peuples, qui représente un peu le mouvement kurde, qui est irréductible au PKK, mais aussi inséparable du PKK, ce parti obtient plus de 10%, jusqu'à 13% dans les élections, y compris dans le contexte turc, où les élections se mènent sur fond d'une politique de terre brûlée. Donc on peut parler effectivement d'une représentation qui ne se fait pas directement par le PKK, mais qui se fait par le parti légal kurde en Turquie.
Nous sommes partis avec vous, Hamid Bozarslan, bien entendu, de cette intervention turque dans le nord-est de la Syrie, donc de la Syrie comme pays, comme région également du monde. Qui vous a inspiré votre dernier livre? En tous les cas, vous dites que ce conflit-là a été un bouleversement pour vous et qu'il a déclenché l'écriture de votre dernier livre que vous avez intitulé « Crise, violence, décivilisation » et dans lequel vous retracez une histoire globale des crises et de la violence. Qu'entendez-vous par ce processus de décivilisation, Hamid Bozarslan?
Le processus de décivilisation, on l'a pu observer aussi en Europe, en 14-18, la guerre de 14-18, c'était une phase de décivilisation. Je pense que le nazisme a constitué quand même un peu le summum de la décivilisation, le totalitarisme stalinien aussi. La décivilisation, c'est lorsque on détruit délibérément la confiance que les gens, que les citoyens peuvent avoir dans le temps et dans l'espace. Et partant, on détruit et le temps et l'espace. Et je crois que pour donner vraiment un exemple de ce que la décivilisation peut signifier dans le contexte syrien, je mentionnerai tout simplement qu'en 2013, il y avait quelques 1200 milices en Syrie. 1200 milices, cela signifie que vous fragmentez le temps national en 1200, que le temps national ne vous inspire plus de confiance, vous n'avez plus de passé qui vous paie, sur lequel vous pouvez capitaliser, vous n'avez plus l'avenir qui peut vous présenter un horizon optimiste. Et 1200 milices, ça signifie aussi que vous fragmentez le territoire en 1200. Autrement dit, la mobilité n'est plus possible ou la mobilité ne peut être que contrainte. Et je crois que les sociétés, pour pouvoir fonctionner en tant qu'une société civilisée, en tant qu'une société normale, il faudrait que les citoyens puissent avoir confiance dans le temps et dans l'espace. Or, lorsqu'on est dans la décivilisation, on détruit non seulement la confiance, mais aussi le temps et l'espace dans lequel on n'est rien.
En même temps, votre livre se termine, Hamid Bozarslan, par un appel à la résistance et surtout, par vous dites qu'il faut surtout cesser de croire à l'effondrement, toujours résister à cette vision, parce que croire à l'effondrement, écrivez-vous, c'est renoncer à la résistance. Donc un appel à l'espoir malgré tout.
Un appel à l'espoir, le livre n'est pas pessimiste. Effectivement, le livre est un cri qui se transforme en un appel. Le cri, oui, parce qu'on ne peut pas être tout à fait fier de notre 20e siècle. On ne peut pas tout à fait être fier des 20 dernières, premières années de 21e siècle. Cela dit, on n'est absolument pas condamné ni à la destruction, ni il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'effectivement, tout dépend de ce que le citoyen se pense. Est-ce que le citoyen se pense en tant que citoyen? Quelle est la responsabilité individuelle et collective qu'on peut assumer? Non, je pense qu'effectivement, le livre refuse l'hypothèse de l'effondrement, la fatalité de l'effondrement, parce que s'il y a la fatalité de l'effondrement, cela signifierait qu'à un moment donné, je n'aurais plus rien à dire à mes étudiantes en 25 ans. Voilà.
Et ça, c'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Je veux dire, on n'a absolument pas le droit de transmettre nos échecs aux générations futures. Au contraire, je pense qu'effectivement, il faut dire aux générations futures désormais, c'est à vous d'agir. Vous avez des ressources. Vous avez énormément de ressources dans des sociétés européennes. Notamment, il y a énormément de ressources de résistance, de construction, de positivité. Et donc, non, je crois qu'effectivement, il faut refuser l'hypothèse de l'effondrement. C'est pour ça que le livre qui est effectivement est un cri sur plus de 450 pages, devient quand même un appel à autre chose, à autre alternative, se termine sur une conclusion plutôt positive.
Crise, violence, décivilisation, édité par les éditions CNRS, Amit Pozarslan. Alors pour continuer cette discussion, je vous invite, amis auditrices et auditeurs, à aller lire le long et très intéressant, très riche papier d'Éric Biegala sur les Kurdes de Syrie et leur longue histoire. Je pense que vous valideriez, Amit Pozarslan, tout ce qui est écrit, c'est à lire évidemment sur franceculture.fr. Demain à 11h, en direct de Blois, Émilie Aubry reviendra sur les conséquences géopolitiques de l'intervention turque en Syrie avec ses intervenants réguliers de l'esprit public. Et puis cette émission sera prolongée également lundi puisque Guillaume Erner dans les matins recevra l'ancien consul de France en Syrie, Frédéric Pissot, et qu'Olivia Gesbert dans la grande table recevra quant à elle en deuxième partie la journaliste Cécile Aignon.